Voilà, on est bien vendredi et le vendredi, on retrouve, comme presque toujours, Max
Bonsoir, les amis.
De l'ADPS, l'Association de défense des prisonniers de Suisse. Et puis, ce soir, Max, tu vas nous parler de lettres, de deux lettres différentes en fait. Hein, d'une lettre qui est d'un détenu, mais celle-là non, adressée non à l'ADPS, mais à Philippe Clotty, qui est directeur des EPO, et qui concerne la pétition de la colonie. Et puis, une deuxième lettre, mais celle-là adressée à l'ADPS de Claude Tuller. Alors, oui. Je vais te passer la documentation.
Je vais vous en parler. C'est de nouveau des propos, de tristes propos, de scandaleux propos. Et je passe tout de suite à leur énoncé. Donc il s'agit d'un commentaire pour la première lettre, un commentaire sur la réponse de M. Philippe Clotty, directeur des établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe, concernant la pétition de la colonie qui a eu lieu l'année passée au mois de juin, une pétition en 30 points. Alors ce rapport a été encouragé par M. Pedrazzini, actuel directeur des pénitenciers vaudois. Alors Clotty et Ter, prenez garde à votre retraite anticipée. Juste les faits. Vous savez qu'il y a eu une pétition en 30 points en juin passé. Suite à cette pétition, il y a eu un transfert qui a été réalisé dans des circonstances abominables, puisque le détenu, M. Alain Raymond, a été molesté, a été battu, et il a été transféré dans le plus sympa appareil, pratiquement nu. Les gens à la gare d'Yverdon, lors de son transfert, étaient éberlués. On croyait qu'on tournait un film. Alors, voyez, les gendarmes n'ont pas hésité à transporter un homme quasi nu, alors qu'en général, ils sévissent et interviennent et font preuve de beaucoup de rigueur quand il s'agit de simples particuliers. Monsieur Raymond a déposé plainte contre le gardien-chef Ether. Cette plainte a été instruite. Et le gardien-chef Ether ne s'est pas fait inculper par aucun des juges de ce canton. Là, il y a eu un recours et c'est le tribunal fédéral qui va maintenant s'occuper de ça. On souhaite un peu plus de clairvoyance tout de même aux juges fédéraux. Alors je passe à la lecture de cette lettre. Il s'agit donc de M. Raymond qui écrit. Pour ce qui est du préambule, M. Clotty essaie de ramener la pétition à une simple manœuvre en ce qui me concerne. Il convient de préciser que je ne suis pas l'auteur de la pétition, bien que j'aie participé au comité de rédaction. En second lieu, il s'avère que sur 92 détenus, seuls 5 ont renié leur signature suite aux pressions exercées par M. Ether, gardien-chef, qui a en cette occasion soigneusement préparé le simulacre d'enquête menée par le directeur. 5, c'est insignifiant par rapport à l'approbation massive que cette pétition a rencontrée. Sur le fond, on peut se demander si le directeur des EPO a réellement lu la dite pétition. Le ton résolument modéré et constructif de cette dernière prouve amplement qu'il n'a pas été nécessaire au comité d'exercer des pressions sur les co-détenus pour obtenir leur signature. Au contraire, dès la lecture des copies de la pétition, les détenus de la colonie ont littéralement fait la queue pour signer. Un dernier mot sur mon cas. Dans son rapport, M. Clotty avoue implicitement que cette pétition a été la cause du transfert tabassage dont j'ai été victime. En effet, d'une part, il prétend que moi seul suis l'auteur de cette pétition et que les rapports pénibles avec mes ex-codétenus ont nécessité mon transfert. D'autre part, il conclut que le transfert à la Stampa ne constitue nullement une mesure disciplinaire. Tant de mauvaise foi couchée noir sur blanc et suffocant de la part d'un fonctionnaire de son rang. Je crois pouvoir dire, j'ai une vingtaine de lettres à disposition de ceux qui veulent l'entendre, que je jouissais de l'estime de tous mes codétenus. En réalité, M. Clotty utilise à tort et à travers la possibilité de punir au moyen du transfert, profitant du vide juridique que lui laisse le règlement, d'ailleurs fort ambigu en la matière. Les événements survenus récemment au pénitencier confirment cette analyse. M. Clotty, incapable d'assurer les responsabilités qui incombent à un directeur compétent, se débarrasse systématiquement des détenus encombrants par le biais du transfert. Mesure extrêmement pénible pour le détenu qui l'a subi, surtout quand elle est accompagnée de voies de fait sur le détenu par le personnel, ce qui fut le cas pour moi, vous le savez. Examinons à présent les propos de M. Clotty quant aux doléances proprement dites. Toujours en se basant sur un sondage qui n'a jamais réellement eu lieu, il affirme que seuls 10% de la colonie est mécontente de cette institution. La proportion de signataires de la pétition, plus de 90% des effectifs atteignables de la colonie, dit suffisamment ce qu'il faut penser de ce chiffre. En plus grave, suite à deux évasions spectaculaires, M. Clotty limite certaines possibilités de sport et de loisirs, elles-mêmes obtenues de hautes luttes, voire la pétition plancherelle. La faute de ces évasions est uniquement imputable à l'incompétence des gardiens, incapables de compter des détenus lorsque leur nombre dépasse celui des doigts de la main. Cette incompétence va d'ailleurs de pair avec leur brutalité, encouragée par leur chef. Regardez donc les sanctions disciplinaires. L'éventail des sanctions n'est pas seulement large, il est cumulatif. Toute faute est, ou considérée comme telle entraîne une cascade de sanctions automatiques. Si, comme l'avoue M. Clotty, la voie du recours ne figure nulle part sur la feuille d'avis de sanctions, c'est tout simplement parce qu'une telle procédure n'existe pas à la colonie. L'usage de la sanction disciplinaire à la colonie est très diffus car il s'apparente à une philosophie du dressage, système pédagogique inefficace et même pernicieux quant au but recherché, considéré d'ailleurs comme obsolète par toutes les recherches criminologiques sérieuses en la question. Voyons les sports et loisirs. Depuis la double évasion, rappelons que l'évasion n'est pas un crime dans le droit suisse, ceux des détenus qui vont au sport ne peuvent plus se rendre ensuite aux loisirs. Passons sur l'affirmation selon laquelle les seuls usagers des loisirs seraient des toxicomanes qui s'en serviraient comme fumerie. Elle relève de la diffamation pure et simple. Depuis l'introduction des contrôles d'urine, de telles pratiques sont entrées dans la clandestinité et bien bête serait celui qui déciderait de s'y adonner aux loisirs sous les yeux de congénères et au risque d'être vu par les gardiens qui font leur ronde en permanence autour de ces locaux. Les loisirs, comme le sport, répondent à un besoin vital pour les détenus. Le malheur est qu'il n'y a aucune politique des loisirs à la colonie où cette activité est méprisée, comme les autres, par la direction. Comment s'étonner, dans ces conditions, que certains fassent preuve d'irresponsabilité en abîmant le matériel ? Un coup d'œil sur l'enseignement. Cette activité préoccupe beaucoup les autorités de la colonie au point qu'elle fait l'objet d'entraves systématiques. Il est vrai qu'un détenu qui est au cours ne peut pas en même temps trimer aux divers travaux imposés. Il y a là un danger pour la politique productiviste poursuivie par la direction de la colonie. Un détenu qui finit par obtenir un ou deux après-midi par semaine est enfermé dans sa cellule nue, comme à l'isolement. Le gardien-chef refuse de comptabiliser ses heures. Bref, ceux qui ont le malheur d'être à la colonie et de mener une activité intellectuelle sont apparentés à des perturbateurs, voire à des fainéants. D'où la faiblesse de la demande, puisque l'on brise l'élan de celui qui désire utiliser son temps de détention pour étudier. Comme remarque générale, on pourra dire que le directeur précédent avait commencé à mettre en place des structures d'enseignement faisant largement appel à des collaborations extérieures qui ne demandaient qu'à aider les détenus. Si le pénitencier bénéficie de tels apports, la colonie est, elle, condamnée à un enseignement velléitaire et au rabais. C'est le gardien-chef qui décide en définitive si un détenu sera ou non autorisé à mener des études, les responsables de l'enseignement à la colonie en se référant au profil de la population pénale. Le multirécidiviste, détenu type de la colonie, n'aurait aucune peine à trouver un travail dehors. Quant au toxicomane, je cite donc, il ne semble guère préoccupé par leur avenir. Conclusion fataliste qui veut que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes. Monsieur Clotty a raté une vocation dans la gérance d'immeubles. Son seul savoir-faire se limite à gérer la rotation des détenus dans des cellules, ces derniers étant de toute façon irrécupérables, selon lui. Les soins médicaux sont un scandale permanent à la colonie. Les détenus obligés de travailler dans les champs avec 39 degrés de fièvre apprécieront. La réelle responsabilité médicale de la colonie revient à une ancienne gardienne, l'infirmière sœur Verena, qui décide qui est malade et qui ne l'est pas. Quant aux maladies imaginaires, il faut savoir que la détention occasionne des stress susceptibles de déboucher sur des troubles organiques. Si le mal a sa source dans l'imaginaire perturbé des détenus, leur souffrance, elle, est souvent bien réelle. Si l'on considère l'effectif total des EPO et le nombre de personnes différentes qui passent chaque année dans cette institution en y subissant les visites d'usage et les soins que leur état occasionne, les 263 000 francs paraissent bien être la note d'une médecine au rabais. Voyons le pécule et le travail. Ici comme ailleurs, M. Clotty se montre maladroit lorsqu'il manipule les statistiques. La pétition dénonçait les disparités du pécule qu'il s'applique à dissimuler derrière la moyenne journalière de 20 francs 50. Or, à la colonie, les gains d'un individu à l'autre peuvent varier du simple au quadruple. Ironie du sort, ce sont les travaux les plus pénibles de l'équipe qui sont les plus mal payés. Que ceux qui travaillent davantage soient un peu mieux rétribués, ce n'est que justice. Que les détenus soient payés à la tête du client, cela est inadmissible. Pour des broutilles, un mot de travers, certains détenus peuvent voir l'effort de journée de travail se traduire par 0 francs, 0 centimes. Le pécule est un droit assimilable au salaire. Il ne doit pas être le fruit d'appréciations fluctuantes qui sont autant de sanctions ou d'atteintes au respect de la personne du détenu. Terminons ce chapitre sur une note burlesque. Monsieur Clotis se mue en chantre des travaux des champs. La colonie appelle des vocations campagnardes une fois la liberté retrouvée. Monsieur Clotis s'est même répandu dans la presse en affirmant que le travail aux champs rend l'homme heureux, déclenchant à cette occasion l'hilarité générale des détenus et sans doute de nombreux lecteurs. Nous nageons ici en plein délire poétique agricole vaudois. Monsieur Clotis déconseille l'octroi du premier congé à 24 heures, en arguant qu'il serait intéressant, mais qu'une fois attribué, il serait difficile de revenir en arrière. L'argument est des plus spécieux. À quoi servent alors les congés si leur durée ne permet pas de goûter à la liberté? S'il s'agit de faire un test, un congé d'une heure suffit amplement. Il n'est pas vrai que le nombre de visites est suffisant à la colonie. Il arrive fréquemment que l'on manque de place, surtout le week-end, et les visiteurs sont alors obligés de choisir une autre date qui peut retarder leur venue de plusieurs semaines. La doléance d'une visite par semaine est parfaitement fondée. Elle permet de maintenir le lien avec ses proches de manière plus régulière. Puisque les fouilles sont systématiques, il n'y a aucune raison pour que les visiteurs puissent s'entretenir avec les détenus de manière plus rapprochée et intime. Les relations avec le gardien-chef et la direction. Eh bien, M. Clotis consacre 5 à 6 heures par semaine aux audiences. L'effectif des EPO étant d'environ 250 détenus, imaginons qu'un dixième de ceux-ci veuille parler au directeur. Cela ferait à peine 10 minutes par interlocuteur. Voilà un directeur qui soigne le contact et les relations humaines. À tel point que les détenus l'ont surnommé « courant d'air ». S'entretenir avec les détenus des problèmes qui se posent devrait être l'une des tâches principales d'un directeur de prison. La crise de la colonie et les révoltes du pénitencier sont directement imputables au manque de dialogue et de suivi du directeur dans ses contacts avec les détenus. Quant au gardien-chef, en matière de contact, ce dernier ne semble connaître que la prise de judo. Pour en parler, il faudrait au moins que M. Etter ait reçu des rudiments de formation, étant lui-même naturellement dépourvu de tout sens de contact humain digne de ce nom. Enfin, M. Clotis a tort de refuser la création d'un comité de détenus qui lui faciliterait grandement la gestion du matériel humain dont il a la responsabilité et qu'il connaît si mal par ailleurs. En conclusion et en contradiction flagrante avec la lettre de M. Clotis, il s'avère que la pétition de la colonie est fondée, qu'elle n'est pas abusive et qu'elle défend l'intérêt général. Ainsi parlait Alain-Michel Raymond le 1er avril 1987.
En réponse à M. Clotis.
C'est cela. Alors je passe maintenant, puisque le temps passe lui aussi, à la lecture de la lettre de Claude Tuller à l'ADPS du 10 mai 1987. Bien chers amis de l'ADPS, j'ai eu du plaisir à entendre parler de vos actions et des diffusions de vos propos sur les ondes. J'approuve vos actions face à l'indifférence et à la peur des citoyens de ce triste canton de Vaud, face à la misère carcérale tant du côté préventif qu'exécution des peines. C'est par Michel que j'ai obtenu votre adresse après avoir pris connaissance de votre recours au tribunal fédéral couronné de succès. En vérité, il est rassurant que la décision crapuleuse du conseiller Lebas et de ses sbires ait été contrée. Lebas, je le connais bien. Je lui ai adressé 2 vives critiques avec copie au Grand Conseil vaudois, à Madame Kopp, au ministère public de la Confédération, tout comme au procureur général vaudois, concernant le tort qui m'avait été fait. Certes, j'étais condamné à 18 mois entre les années 81-83, puis de nouveau le 29 juillet 86 pour 11 mois. Or, entre ces deux époques, j'ai constaté que cet établissement vaudois avait tourné au pire pour 90% au moins. Face à la redondance des scandales et des iniquités, j'ouvrais un dossier de dénonciation à toutes les instances fédérales et cantonales compétentes pour tenter de les sensibiliser au problème. Je leur ai écrit sans ménagement. Indigné qu'on pût promulguer des lois écrites noir sur blanc et n'en rien respecter. Comment admettre la foison des magouilles? à la réception de mes plaintes pénales et civiles, dont je ne ferai pas état maintenant, contre les répressions subies aux EPO, la justice vaudoise s'est contentée de fermer les yeux. Ainsi, la chambre d'accusation a-t-elle bloqué le dossier, pensant que j'abandonnerai mes plaintes. Les autres instances ne valent guère mieux, puisque muettes, quoique nanties. Nous aurions largement de quoi faire éclater un scandale analogue à l'affaire des caisses noires bernoises, puisque les témoins ne manquent pas. Encore la justice daignera-t-elle jamais les entendre. J'ai néanmoins conservé les documents compromettant le département vaudois de la justice et suis en mesure de faire baigner Jean-François Lebas dans le malaise, car que de mensonges. Ce qui nous occupe également aujourd'hui sont les effets d'un recours au tribunal fédéral sur les séquestrations de téléviseurs que certains détenus avaient prêtés à leurs copains. Car voyez-vous, à la colonie des EPO, il est interdit de prêter son propre poste de télévision sous peine de retrait pendant plus d'un mois. Cette séquestration est illégale. En voici la preuve. Dans sa décision du 24 avril 1987, le tribunal fédéral m'a remis, avec copie aux directions des EPO et des services pénitentiaires vaudois et valaisans, 18 pages sur cette affaire. Conclusion, seul celui qui trafique son appareil pour en faire un émetteur encourt la séquestration de celui-ci. Dans tous les autres cas, la direction et le gardien-chef éthèrent n'ont aucun droit. Cependant, il continue à ne pas observer la décision fédérale avec la bénédiction de Lebas. Un autre recours est pendant au tribunal fédéral contre l'interdiction de cantiner normalement et contre le refus des nécessaires de toilettes alors qu'ils sont acceptés dans le secteur réclusion. Voilà, chers amis de la DPS, tout est bon pour attaquer, sachez-le. Voici 11 mois que je m'y emploie avec plus de 150 recommandés à l'appui, parce que l'envoi du courrier n'est pas garanti aux EPO, même quand le destinataire est une autorité de l'État, puisque mon adresse à un conseiller fédéral n'a pas été acheminée. Toutes ces doléances devront être entre les mains des députés, devraient être entre les mains des députés du Grand Conseil vaudois. À cela s'ajoute la cruelle répression et les oublis de libérer les détenus en fin de peine. J'ai tenté en vain de faire respecter la date de ma libération le 31 mai 1987, ayant subi en tout 7 ans sans jamais avoir bénéficié d'aucune conditionnelle. Je suis donc détenu illégalement. Vous connaissez en outre le scandale des carences médicales aux EPO. En particulier, le détenu désargenté est privé de tout soin dentaire. Nous avons appris la mort d'un détenu sorti le 10 avril dernier de la colonie, notre ami Vautet, âgé d'environ 35 ans. Il est décédé d'un cancer 3 semaines après sa sortie des EPO. Or, les médecins connaissaient son cas et avaient le devoir de faire sortir cet homme immédiatement. Souvenez-vous aussi de Kovacsi, mort 2 heures après avoir subi une attaque cardiaque, une prompte assistance médicale lui ayant été refusée. J'ai alerté Berne pour exiger une véritable enquête en invoquant les articles du Code pénal suisse. Nous savons tous ici que certains codétenus sont atteints de graves maladies tenues cachées afin de leur faire subir leur peine jusqu'à ce que mort s'en suive. Tous ces faits relèvent d'un droit fondamental bafoué. Je supplie les parents de ces détenus et amis, dans la détresse, d'insister avec ténacité sur l'ouverture d'enquêtes sérieuses, car on meurt trop en prison, et à cause de la prison. Relevons en passant le vol organisé par les directeurs de préventif vaudois qui s'octroient 30 francs lors du contrôle de l'appareil de télévision des détenus. Ce montant n'est pas perçu dans les prisons préventives des autres cantons. C'est en particulier le directeur Ramel, à l'insulte facile, qui pratique de la sorte. Il perçoit abusivement une commission de 14% sur les produits commandés par les détenus. Ceci est une provocation et une invite à la délinquance. Sous le règne de l'ignoble Lebas, tout est décidément permis pour les improbes gestionnaires des pénitenciers. Selon eux, la délinquance est à sens unique. Leur but, du reste avoué par les plus cyniques, est de pousser les détenus à la récidive. Lebas tient à ses 60% de récidivistes. Il veut remplir les prisons en fabriquant et entretenant la criminalité, car il cherche à justifier une politique pénitentiaire florissante afin d'occulter les vrais problèmes sociaux. Qu'il est facile de manipuler l'opinion publique en polarisant sa haine sur une fraction de la population, très souvent acculée à la délinquance, de par le comportement égoïste et manichéen de notre société, ainsi que par ses structures anticonviviales. J'appuie vos actions à 100% et attends ma sortie prochaine pour délivrer les preuves fracassantes que je tiens à publier dans les journaux hors de ce triste canton de Vaud. Je vous remercie, chers amis de la DPS, de prendre acte de ces propos. Dès que possible, je me joindrai à vos efforts à l'extérieur, car votre action doit se généraliser et, par son effet éducatif, doit amener la majorité ignorante et silencieuse à changer de mentalité. L'heure d'agir a sonné pour que notre pays soit tenu au respect des droits de l'homme. À ce moment seulement, il méritera de porter un jugement sur les autres. Mes sentiments vraiment distingués et combien fraternels. Claude Tuller. Merci Claude. Ce sera tout pour aujourd'hui. Très chers amis, très chers détenus, nous avons rendez-vous à vendredi prochain où nous parlerons cette fois de l'armée et de ses graves conséquences sur la mentalité de tous les citoyens.
Merci Max pour toutes ces communications qui concernaient principalement, même exclusivement, les EPO.
C'est cela. Au revoir.
Au revoir.
Tous ces mots qui condamnent, comme c'est dur quelquefois, ces images et ce drame qu'on ne connaissait pas et qui peuplent nos rêves en nous tombant dessus. Et tous ces maquillages, ces regards éperdus, ces amis de passage qu'on ne reverra plus. Comme les chansons s'effacent, moi je voulais te dire, c'est bon que tu sois là.
Une importante conférence de presse s'est tenue ce matin à la Maison d'Élysée à Lausanne. Elle réunissait en effet, outre la totalité des chefs de département de la santé publique de Romandie, M. Flavio Cotti, conseiller fédéral. Alors, quelle était la raison de ce mini-sommet ? C'était la présentation à la presse d'une importante convention relative au financement de la formation des professions de la santé. Par profession de la santé, il faut entendre l'ensemble des professions paramédicales, la formation des médecins étant du ressort des cantons universitaires. Cette convention a été signée par tous les exécutifs des cantons romands et également par Berne et le Tessin. Alors Hugues Pelletier, vous étiez à cette conférence de presse. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'objet de cette convention ?
Alors cette convention, elle est parfaitement définie par son titre. En effet, l'accord signé par les cantons romands porte principalement sur les problèmes financiers de la formation des professions paramédicales. Il s'agit au fond d'un rééquilibrage, d'un transfert de flux financiers entre les cantons qui offrent des prestations médicales, des prestations de formation, et d'autres cantons qui sont bénéficiaires de ces prestations.
Alors, quel était le problème que les cantons romands ont cherché à résoudre en fait par le biais de cette convention ?
Alors, le problème qu'ils ont tenté de résoudre est le suivant. D'un côté, il y a une palette de professions paramédicales très étendue, ce qui entraîne l'impossibilité pour chacun des cantons d'assumer seul le coût entraîné par la mise sur pied de chacune de la formation de ces professions. Alors, cette situation, cette